à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Maté Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Alors aujourd'hui, on va parler d'enzymes et d'halogènes et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Lucas Bizel. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Lucas, tu es doctorant en troisième année à Centrale. Ton sujet de thèse s'intitule « Recherche de nouvelles enzymes pour la synthèse de monomères polymérisables, halogénés et aminés par biocatalyse et catalyse hybride ». C'est hyper long. pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton sujet en quelques mots ?
Ouais. Alors tout d'abord, pour mettre un petit peu de contexte, donc je réalise ma thèse au sein du laboratoire UCCS. Et dans le laboratoire, enfin sur la plateforme Real4 qui est située donc à Centrale Lille. Et je travaille au sein d'un projet d'une chaire industrielle qui s'appelle Plastiloop 2.0 et qui est en partie donc financée par une entreprise, donc Syensqo. Et mon rôle dans ce projet-là, c'est de réaliser des réactions donc d'halogénation, comme vous l'avez dit, en utilisant des enzymes afin de réaliser ces réactions donc, avec des voies plus durables, plus vertes, si on peut dire.
Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux... Donc, tu nous parles ici d'halogénation.
Exact.
Qu'est-ce que c'est ?
L'halogénation, c'est tout simplement la fixation, en fait, d'un atome d'halogène. Donc, un atome d'halogène, c'est soit du fluor, du chlore, du brome ou de l'iode. C'est les quatre atomes d'halogène principaux qui existent. Et donc, c'est tout simplement la formation d'une liaison avec un de ces atomes sur un atome de carbone. Sur des molécules d'intérêt. Donc, dans notre cas, on travaille sur des molécules qui sont d'intérêt pour l'entreprise avec laquelle on travaille, qui est donc Syensqo.
Okay.
Et ces molécules-là, pardon. L'intérêt de faire de l'halogénation se trouve principalement dans la synthèse de médicaments. On retrouve beaucoup de molécules halogénées dans les médicaments, puisque l'halogénation permet d'améliorer l'efficacité en fait, du médicament. Ça se lie mieux aux récepteurs cibles. Et on trouve aussi d'autres utilisations dans la production de plastique, par exemple. Il y en a encore beaucoup d'autres.
Et combien de temps ça prend de réaliser une halogénation ?
Ben, si on prend juste la réaction en tant que telle, c'est relativement court. Ça prend, c'est de l'ordre de l'heure, quoi. Une, deux heures. Si on prend en compte toutes les préparations des catalyseurs, je pense qu'on en reviendra, on reviendra dessus plus tard, ça peut prendre plutôt de l'ordre d'une semaine pour la préparation plus réalisation de l'expérience.
Tu nous as parlé d'enzymes également, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, alors une enzyme, c'est tout simplement une protéine, comme on en a plein dans notre corps. Chimiquement, c'est exactement la même chose. Mais le rôle des enzymes, donc ce sont des protéines en fait, qui réalisent des réactions chimiques. On parle donc de catalyseurs, leur objectif, c'est d'accélérer des réactions chimiques. Donc elles se passent... Les enzymes, on les trouve dans tous les organismes vivants, donc chez nous, mais aussi chez des bactéries. Et donc, voilà, leur rôle, c'est d'accélérer des réactions.
Et tu en as créé une, c'est bien ça ?
Alors, j'en ai pas créé une, mais j'en ai produit une. Donc, à partir de... On l'achète pas telle qu'elle, puisque ça peut se faire, mais dans mon cas, elle n'existe pas commercialement. Donc, j'ai pu les produire, effectivement, en achetant le matériel génétique et ensuite en les produisant, en utilisant des bactéries, en faisant de la fermentation, puis de la purification des protéines. Des enzymes.
Tu rentres dans ta troisième année de doctorat. Est-ce que tu peux nous parler de tes avancées concernant ta thèse ?
Ouais. Ben, du coup, j'ai commencé ma thèse sur les enzymes qui sont capables de faire des réactions d'halogénation. Et c'est un sujet sur lequel mon laboratoire n'avait encore pas travaillé. Donc, j'ai commencé par faire beaucoup de recherches bibliographiques et par sélectionner les enzymes qui étaient d'intérêt pour mes réactions. Pour ma réaction. Et donc j'ai d'abord sélectionné les enzymes par étude bibliographique. J'ai ensuite, je les ai produites. J'ai fait des caractérisations d'enzymes pour sélectionner les meilleures. J'ai fait des études d'immobilisation, donc c'est-à-dire les mettre sur des supports solides. Et ensuite, je les ai testées donc, sur les molécules qui sont d'intérêt pour notre partenaire industriel.
La caractérisation, en quoi ça consiste ?
La caractérisation, ben, c'est simplement déterminer les conditions dans lesquelles l'enzyme fonctionne le mieux. L'enzyme est sensible aux conditions dans lesquelles on la met. Donc on va tester l'impact de la température, par exemple, sur l'activité de l'enzyme. Donc, c'est-à-dire, quand je parle d'activité, c'est sa capacité à transformer des molécules. Par caractérisation, j'entends aussi le pH de la solution, les différents solvants organiques qu'on peut utiliser. Quels sont en fait les impacts de tous ces paramètres-là sur la capacité de l'enzyme à réaliser son travail ou le travail qu'on lui demande en tout cas.
Et pourquoi tu n'as choisi qu'une enzyme et tu n'as pas continué à faire des tests sur plusieurs enzymes ?
Ouais, alors ça, y a deux raisons principales, je dirais. La première, c'est comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai produit ces enzymes. Donc il y a le problème de production, c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'enzymes qu'on n'a pas réussi à produire ou en très faible quantité. Donc il y a ce premier facteur. J'ai continué à travailler avec l'enzyme que j'arrivais à produire le mieux. Et encore une fois, le deuxième facteur, c'est qu'après, j'ai fait la caractérisation de ces enzymes-là et ça prend beaucoup de temps de faire la caractérisation de ces enzymes. Donc, travailler sur beaucoup d'enzymes, c'est compliqué si on veut avoir quelque chose de fini à la fin de la thèse, quoi. On n'a pas un temps infini, donc il faut faire des choix.
Tu nous as parlé également d'une immobilisation, donc l'immobilisation de l'enzyme. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi tu dois réaliser cette manœuvre ?
Ouais, l'immobilisation de l'enzyme, c'est fixer l'enzyme sur un support solide. En fait, une enzyme, c'est soluble. Donc quand on réalise notre réaction, à la fin de la réaction, on ne peut pas réutiliser cette enzyme. On ne peut pas la récupérer puisqu'elle est en solution avec tout le reste. Et l'idée de l'immobilisation, c'est de la fixer sur un support. Donc on obtient une solution hétérogène une fois qu'on a notre enzyme fixée sur un support. Et donc en fin de réaction, on peut tout simplement filtrer, centrifuger pour récupérer notre enzyme et pouvoir la réutiliser. Donc c'est une question de recyclabilité de notre catalyseur qui permet de réduire les coûts et d'avoir un impact aussi environnemental moindre en pouvant réutiliser notre catalyseur.
C'est un élément important pour la thèse et même pour toi personnellement d'avoir cet aspect plus durable dans la démarche ?
Ouais, bien sûr. C'est important pour moi à l'échelle personnel parce que ça donne du sens à ce que je fais et la partie environnementale compte pour moi dans mes convictions, etc. Et puis dans le cadre de la thèse aussi, puisque comme je l'ai dit plusieurs fois, on a un partenaire industriel, donc voilà, essayer de développer des méthodes plus respectueuses de l'environnement, plus durables, c'est aussi important de le faire à l'échelle industrielle, et donc pour le projet c'est important.
Une fois que tu as sélectionné l'enzyme, qu'est-ce qui se passe ?
Donc une fois que j'ai sélectionné l'enzyme, j'ai d'abord fait toute la caractérisation, l'immobilisation, comme on en a déjà parlé. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai utilisé cette enzyme dans un système qu'on appelle de catalyse hybride. Donc j'ai en fait essayé, la catalyse hybride, c'est tout simplement l'association de plusieurs catalyseurs. Donc en les mettant dans le même pot, dans le même environnement, ou alors en les liant les uns aux autres pour faire... qu'un seul gros catalyseur formé de plusieurs. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire, dans mon cas, mettre mon enzyme avec un second catalyseur pour pouvoir rendre ma réaction plus durable et plus continue dans le temps.
Et dans notre cas, du coup, cette catalyse hybride, à quoi elle va servir ?
Ouais, alors dans mon cas, l'enzyme que j'utilise a besoin de ce qu'on appelle un substrat qui est... une molécule qui est nécessaire à ce que la réaction se produise. Et ce substrat, dans mon cas, c'est le peroxyde d'hydrogène. Alors le peroxyde d'hydrogène, c'est une molécule qu'on trouve beaucoup dans l'industrie papetière, notamment pour blanchir la pâte à papier, par exemple. Mais à mon échelle, dans mon cas, j'ai besoin d'en utiliser des concentrations importantes. Et l'utilisation d'une concentration importante de peroxyde d'hydrogène peut avoir un impact néfaste sur mon enzyme. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, on ne va pas ajouter ce peroxyde d'hydrogène dans notre solution, mais on va essayer de le former in situ, donc dans la solution. Et donc, pour ça, l'idée, c'est d'avoir un catalyseur capable de former le peroxyde d'hydrogène qui ensuite va être utilisé par mon enzyme dans un second temps. Et comme ça, on espère avoir un procédé qui permet à l'enzyme de survivre plus longtemps et qui est plus durable dans le temps.
Et donc, toutes ces réactions, elles se déroulent les unes après les autres.
Exactement. On parle souvent de réactions en cascade ou réactions en tandem. Donc, on a d'abord la première réaction qui permet la formation de ce peroxyde d'hydrogène dont j'ai parlé. Et ensuite, dans la foulée directement ce peroxyde d'hydrogène qui va être consommé par l'enzyme pour réaliser la réaction d'halogénation qui est le but final du procédé.
Et est-ce que c'est possible que ces réactions en cascade ne fonctionnent pas ?
Ouais, bien sûr, la plupart du temps même, sinon ce serait trop facile. Oui, parce qu'on travaille donc avec plusieurs catalyseurs, donc plusieurs entités qui ne fonctionnent pas forcément dans le même environnement. Donc il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. C'est déjà trouver deux catalyseurs qui sont capables de fonctionner dans les mêmes conditions, donc au même pH, à la même température, voilà. Et puis qui ne s'inhibent pas l'un l'autre, puisqu'il est possible que l'ajout d'un autre matériau en présence de l'enzyme va complètement inhiber l'enzyme. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, la bonne balance entre efficacité et puis fonctionnement du procédé, quoi.
Et ça, donc, c'est des tests encore supplémentaires pour trouver la compatibilité, j'imagine.
Oui, bien sûr, c'est ça. On a eu des idées initialement, de catalyseurs qui étaient capables de produire du peroxyde d'hydrogène dont on a besoin. Mais on doit choisir parmi ceux-là ceux qui sont capables de fonctionner dans les mêmes conditions que celles que les conditions où notre enzyme fonctionne.
Et ça se teste pendant cette réaction ou on peut les tester à part ?
Non, ça se teste dans un premier temps séparément. Comme c'est des milieux qui sont au final assez complexes, comme on ajoute beaucoup de choses dans le même milieu, c'est important de les tester dans un premier temps séparément pour bien comprendre chacun des catalyseurs séparément, d'avoir une bonne connaissance de ces catalyseurs pour ensuite pouvoir les associer convenablement.
Et quels sont les points de vigilance quand on réalise ce type de réaction pour que ça fonctionne ?
C'est justement à choisir les catalyseurs de telle sorte à ce qu'ils fonctionnent dans les mêmes conditions et puis être sûr qu'ils s'acceptent en fait l'un l'autre et qu'il n'y en ait pas un qui empêche l'autre de fonctionner. C'est ça les points de vigilance principaux quand on fait ce genre de catalyse hybride.
Et cette catalyse hybride, justement, est-ce qu'elle accélère encore la réaction ou au contraire, est-ce que ça demande plus de temps vu qu'il y a plus d'éléments ?
Non, elle n'accélère pas nécessairement la réaction. La vitesse de réaction va probablement rester la même. Mais en revanche, elle permet, dans notre cas en tout cas, à la réaction globale d'halogénation, d'être plus durable dans le temps et de durer plus longtemps, puisque on va avoir production en continu de peroxyde d'hydrogène, et donc ça ne va plus être un facteur limitant dans notre procédé.
Tu soutiendras ta thèse en fin d'année, donc il te reste encore un peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est prévu pour la suite ?
Ouais, alors... il est prévu déjà de continuer tout cet aspect catalyse hybride que j'ai déjà commencé, de terminer, d'améliorer le procédé qu'on a pour le moment au laboratoire. Et puis dans un mois, je vais également accueillir un stagiaire de M2 pour un stage de 6 mois. Et donc qui lui va travailler plutôt, on parlait précédemment de pourquoi j'ai pas travaillé sur d'autres, d'autres enzymes, qui lui va travailler sur la production et essayer de caractériser de nouvelles enzymes qu'on a déjà sélectionné dans la littérature ou avec des méthodes bioinformatiques. Et donc voilà, il y a ces deux pans qui sont les pans principaux de ma fin de thèse.
Super, merci Lucas pour ces premières réponses. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale avec le morceau On My Shoulders de The Do.
Soon.
pour la deuxième partie de cet épisode de Mater Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Lucas, un doctorant de troisième année. Alors, je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et sur tes motivations, celles qui t'ont amené à faire de la recherche. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelles études tu as suivies ?
Ouais, alors j'ai commencé par faire un bac S, à la suite duquel j'ai fait une classe préparatoire BCPST. Donc plutôt très ouverte, biologie, chimie, physique, sciences de la terre. Donc il y a une classe préparatoire qui mène aux écoles d'agroalimentaire, de vétérinaire et aussi de chimie et biotechnologie, ce que j'ai fait. Donc après, je suis rentré dans un cursus entre deux écoles d'ingénieurs, donc l'école de chimie de Strasbourg et l'école de biotechnologie de Strasbourg, où j'ai continué à faire un peu... Donc une partie chimie, une partie biotechnologie. J'ai toujours aimé un peu avoir les deux casquettes. Et puis, directement après ma troisième année d'école, j'ai commencé donc ma thèse ici à Centrale Lille. Voilà.
tu as toujours voulu faire de la recherche ?
Non, je ne peux pas dire que j'ai toujours voulu faire de la recherche. Parce que je crois qu'on découvre quand même assez tard ce que c'est les métiers... de la recherche. Donc j'ai beaucoup découvert ça pendant mon école d'ingénieur, ce qui est assez contre-intuitif parce qu'en général c'est plus orienté vers l'industrie. Mais l'école d'ingénieur que j'ai faite à Strasbourg était quand même très orientée recherche académique. Donc j'ai commencé beaucoup à m'intéresser et à penser à faire une thèse à ce moment-là. Puis j'ai aussi dans ma famille des gens qui ont fait des thèses, donc je savais un petit peu ce que c'était.
Et dans ton parcours, tu as fait différents séjours à l'étranger.
Ouais, c'est aussi le point positif des écoles d'ingénieurs, c'est que c'est quand même très ouvert vers l'étranger. Donc j'ai eu l'occasion de faire un stage de 4 à 5 mois où j'ai été en Irlande, dans une start-up irlandaise. Et puis j'ai aussi eu l'occasion de partir à l'étranger durant ma thèse. Donc le partenaire que j'ai cité précédemment, ScienceCo, le laboratoire avec lequel on travaille est localisé à Shanghai. Et donc j'ai eu l'occasion l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans maintenant, du coup fin 2024, de partir 2 mois pour travailler dans leur laboratoire avec les partenaires.
Tu penses que c'est important cette dimension internationale quand tu travailles dans l'univers de la recherche ?
Ouais, c'est très important parce qu'on est amené... j'allais dire en permanence, mais beaucoup à travailler avec des gens d'autres nationalités, d'autres cultures. Et donc, ouais, je pense que c'est très important d'avoir connaissance qu'à l'étranger, on travaille différemment que chez nous, on réfléchit différemment. Donc, avoir conscience de ça quand on crée un projet, quand on travaille, c'est super important.
Tu as des exemples à nous donner concernant les différentes méthodes de travail, par exemple ?
Il y a des prises de responsabilité qui sont différentes. Il y a... j'ai pas beaucoup d'autres exemples en tête.
Peut-être une façon de communiquer.
Mais une façon de communiquer aussi, ouais, d'échanger. On fait pas les réunions de la même manière. Et plein de choses qui semblent simples au premier abord, mais qui, en fait, quand on travaille au quotidien, peuvent avoir un impact et la manière de manager... de manager des gens, c'est très important de prendre ça en considération.
Ça peut aussi te donner des idées, j'imagine, de comment toi-même tu as envie de manager les personnes qui t'entourent.
Oui, bien sûr, et puis ça donne aussi d'autres exemples de méthodes de travail. Donc ça permet de individuellement aussi s'améliorer ou penser différemment.
Donc tu as déjà fait 2 ans de thèse. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan de ces 2 premières années ?
Le bilan global, c'est que j'ai appris énormément de choses. Et j'ai aussi appris énormément de choses parce que je travaille dans un environnement où j'ai énormément d'équipements à disposition sur la plateforme Real4, donc où j'ai vraiment pas trop de limites en termes d'utilisation d'équipements. Puis j'ai commencé ma thèse, donc comme je l'ai dit, sur un sujet qui était assez nouveau dans le laboratoire. Donc au début, c'était pas évident parce que... on savait pas trop dans quelle direction exacte partir, donc on a beaucoup tâtonné. Pendant une année, il n'y avait pas énormément de résultats, donc il faut continuer à travailler même si ça ne fonctionne pas et c'est pas facile. Mais après, on a trouvé on a trouvé une brèche, quelque chose qui fonctionnait. Et donc ça a été plutôt ma deuxième année de thèse où j'ai beaucoup travaillé sur tout ce dont on a parlé, hein, la caractérisation, l'immobilisation, la catalyse hybride, toutes ces choses-là. Et donc où j'ai appris à ce moment-là beaucoup de choses, beaucoup de techniques, et où ça a ouvert des portes pour la troisième année.
Et justement, comment tu appréhendes cette troisième année ?
Du coup, c'est assez excitant quand même parce que on a ouvert des portes, donc il y a des choses à expérimenter, des nouvelles idées. Mais forcément, un peu stressant parce qu'on arrive vers la fin. Il faut réussir à boucler d'une certaine manière le projet et puis à rédiger le manuscrit. Donc voilà, un peu des deux.
En parlant de rédaction, tu es en train d'écrire donc un article scientifique.
Ouais, alors j'ai soumis un article scientifique très récemment, donc justement sur mes travaux de thèse de deuxième année. Donc soumis, ça veut dire qu'il a été proposé à l'éditeur, mais pas encore accepté, donc pas publié. Et donc ouais, c'est un article donc sur la caractérisation, l'immobilisation, encore une fois, et le test sur des molécules, d'intérêt pour de l'halogénation.
On croise les doigts.
Ouais, on espère avoir la réponse bientôt.
Après le doctorat, est-ce que tu sais déjà ce que tu aimerais faire ?
Je sais qu'à long terme, j'aimerais bien rester dans le monde académique, devenir enseignant-chercheur à l'université. Donc, par la suite, ce que j'aimerais faire et ce qui s'impose un peu, je crois, c'est de faire un post-doc. De préférence, à l'étranger. Encore une fois, on revient sur le fait qu'avoir des expériences à l'étranger, c'est important. Donc, à court terme, faire un post-doc et à plus long terme, trouver un poste permanent dans l'académie, à l'université.
Pour définir un peu un post-doc, du coup, c'est le poste qu'on peut avoir juste après un doctorat, c'est ça ?
C'est ça. Quand on est doctorant, on est encore considéré comme étudiant. Mmh. Et du coup, quand on est post-doc, c'est un peu un stage de recherche. Ça ressemble à un CDD dans l'industrie. C'est souvent 1 ou 2 ans. Dans un autre laboratoire que le laboratoire dans lequel on a fait le doctorat, quoique pas nécessaire.
tu nous parles de cours, donc tu as déjà donné des cours ?
Des cours magistraux, non, mais j'ai eu l'occasion de donner des TD, donc des travaux dirigés à l'IUT de Lille, donc ici sur le campus de Villeneuve-d'Ascq. Et j'ai aussi des TP que j'ai pas encore eu l'occasion de donner, mais qui sont au second semestre cette année, très bientôt, là, en février-mars. Donc, eux sont à l'université de Lille, donc ici aussi, sur le campus.
Pour finir, j'ai une dernière question qu'on pose généralement à chaque fin d'interview. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
Ce serait déjà de se laisser le temps de trouver quel est le domaine qui les intéresse le plus, sans forcément se fermer de porte, en tout cas dès le début, essayer de s'ouvrir au maximum de choses pour découvrir un maximum de domaines et voir lequel nous intéresse le plus. Et puis après, à des jeunes qui cherchent une thèse, on va dire, qui sont plutôt à la fin de leurs études à la recherche d'une thèse, c'est de trouver un sujet qui les intéresse, mais ce qui est aussi très très important, c'est de trouver une équipe dans laquelle ils se sentent à l'aise. Parce que l'humain est très très important, quoi. Et je pense qu'une thèse où le sujet n'est pas forcément le sujet qui fait rêver, mais dans une équipe dans laquelle ça se passe très très bien, ce sera toujours très sympa, alors qu'un sujet super dans une équipe où ça se passe pas très bien, c'est pas super.
Merci Lucas, merci pour toutes ces réponses et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez cette interview en podcast sur notre site internet. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.
écoutez Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+ sur la métropole lilloise.